ce temps mis à part pour le Seigneur, c'est pour que nous puissions le glorifier, que nous puissions lui dire merci, que nous puissions nous poser devant lui, de nos cœurs reconnaissants. Nous l'invitons ce matin à prendre toute la place. Nous lui disons Seigneur Dieu trois fois saint, nous voici devant toi, ton peuple est devant toi. Regarde à nous, regarde à nos cœurs, à la disposition de tout notre être devant toi. Et en ce matin, nous lui disons, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que sans toi, toute vie est perdue pour l'éternité. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, indestructible, et ce pour l'éternité, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à notre apparence, bien que nous devons nous présenter devant lui. Respectueux dans nos vêtements, respectueux dans notre attitude, mais il regarde à notre cœur, n'est-ce pas? Si tu es bien habillé aujourd'hui, mais que ton cœur est noir, crois-tu que le Seigneur va recevoir ta louange? Seigneur, pardonne-nous. Et bien, je le dis d'abord pour moi, cette attitude de fléchir notre cœur devant le Seigneur. Parce que lui qui sont les cœurs et les reins, il sait deux choses. Alors nous allons dans un esprit de paix, de sérénité, ouvrir ces cœurs reconnaissants devant le Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir nos cœurs reconnaissants devant notre Dieu. Il sait comment nous sommes formés. Il sait nos pensées. Mais il veut en ce matin toute la reconnaissance de notre cœur. Amen. Avant de commencer, Seigneur, magnifique, digne de louange. Car ta bonté est grande envers nous et tu nous délivres. Tu nous délivres. Tu délivres nos âmes du séjour profondément. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour chacun de nous? Dans ce prochain chant, prospère-vous. Et ne passe pas à être l'orange. Nous allons fléchir notre cœur devant le Seigneur. Pour ceux qui veulent s'agenouiller, sentez-vous libre. Pour ceux qui veulent sortir des rangs, sentez-vous libre. Ce qui compte, c'est l'attitude de nos cœurs reconnaissants devant le Seigneur. Et ensuite, Dieu prend plaisir à entendre son peuple le louer. Un simple merci. Un simple merci. Prosternez-vous.
Pour te louer, pour te dire merci. Regarde à nos cœurs maintenant.
frères et sœurs qui sont de service pour le partage de la scène, à se lever et à commencer la distribution. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Dans chaque parole que vous avez prononcée ce matin, Dieu regarde dans nos cœurs. Il nous a déjà préparé à cette rencontre. Et il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Et le prochain chant que nous allons entonner, ce dernier repas, il l'a fait pour chacun de vous. Dans le jardin de Gethsémani, c'est pour chacun de vous, de nous. Sur la croix à Golgotha, pour chacun de nous, n'est-ce pas? Nous allons entonner ce chant et nous allons chanter les deux premières strophes animées. Et nous prendrons le pain, n'est-ce pas? Vous me regardez comme si vous êtes triste. Ne soyez pas triste, Christ est présent. Souriez, Julie, ma soeur, souris. Tu as un formidable sourire. Christ est ressuscité.
Amen. Il est vivant.
Que le moment de la scène soit un moment joyeux. On communie avec notre Dieu. Amen.
Amen.
Nous allons chanter ces deux premières strophes. Prendre le pain. Ensuite, nous entendrons les deux dernières et nous prendrons le vin. Symbole du corps de Christ. Symbole de son sang versé à la croix. Vous êtes d'accord avec cela? Oh, souriez-moi. Je veux que je fasse le sourire Colgate. Souriez-moi, bien.
Alléluia.
Amen. Alléluia. Quand j'ai vu tes mains, nous allons nous lever et chanter ce chant. Nous prendrons le pain. après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Le souvenir que ce symbole représente. Prenons le pain. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous voici devant toi. Merci d'être dans chacune de nos vies. Merci d'avoir ton pain dans notre cœur. Merci pour ce pain qui représente ce corps meurtri à la croix, à Golgotha. Tout est remporté. Tout est remporté. Nos meurtris sont les tiennes avant toute chose. Parce que tu as tout porté. Nos maladies sont les tiennes, parce que tu as tout porté. Ô Père, merci de regarder à tes enfants ce matin et reçois cet amour que tous ensemble nous te donnons. Merci de toi, Père, pour ton corps brisé à la croix qui nous donne la vie éternelle. Amen. Nous allons continuer ce chant. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs et de larmes, chaque personne ici présente, imaginez être devant cette croix avec le Seigneur. Essayons d'imaginer nos pensées. Peut-être que nous aurons pris la fuite aussi. Mais pour ceux qui sont restés, imaginez leur douleur. Quand j'ai vu tes yeux. nous serions devant la croix d'Olgotha, nous aurions vu ses mains percées par le clou. Ses mains qui ont béni, qui ont délivré, qui ont guéri. Ses mains qui rompaient le pain pour les disciples. Et nous le faisons encore aujourd'hui. Quand ce corps meurtri, Seigneur de partout, pour qui? Pour toi, Lisa. Il a pour moi, pour chacun de nous. Alors en retour, qu'est-ce qu'on lui dit? J'ai personne en face de moi. Oui, on lui dit merci. Et le mot qui fait, bien. Et c'est le seul mot qu'il nous a donné. Alors nous allons chanter tous ensemble. Comment te dire merci? Ce prochain chant que nous allons entonner, avant de laisser la place au frère qui va apporter le message que Dieu a mis sur son cœur. Comment te dire merci dans toutes choses que nous voyons? Moi, j'ai mon mari, c'est ça, mais oui, c'est ça. Je me mets devant la fenêtre.
Thank you.
nos cinq sens, la voix, on parle, on entend, on voit, on bouge. Dieu, c'est Dieu qui fait tout ça, bien aimé, n'est-ce pas? Hein? Alors que toute la gloire lui en vient, et dans chacune de nos pensées, dans chaque geste, disons-lui merci. Amen. Merci à chacun de vous. Je vous invite à vous asseoir. Et sans plus attendre, je vais appeler Serge. Soyez bénis et que le Seigneur puisse ouvrir notre entendement pour comprendre ce qu'il a à nous dire en ce matin.
Bonjour bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur. Comment ne pas lui dire merci? C'est lui qui nous donne sa paix. Ce matin, nous voilà à quelques jours après la Pentecôte que nous avons célébrée. Cette célébration et qui est l'une des plus caractéristiques de notre foi chrétienne. Nous avons dans notre parcours chrétien à célébrer quelquefois avec quelques hésitations, mais massivement, nous le faisons, la Noël, naissance de Jésus, même si on n'est pas tous d'accord que c'est la bonne date. Mais cette célébration, elle est là au cœur de nos églises. Et nous la célébrons, des fois avec faste, avec reconnaissance. Est-ce que c'est parce que ça tombe vers la fin de l'année que nous le faisons? Peut-être aussi. Et puis ensuite, il y a la Pâque. La Pâque est parfois moins célébrée que la Noël, mais un peu quand même. On se souvient quand même que c'est là que notre Seigneur ressuscité, car s'il ne l'était pas, notre foi serait vaine, n'est-ce pas? Il serait resté dans le tombeau. Alléluia, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, il est vivant. Amen. Et puis, il y a cette autre fête qui, elle, passe quelquefois dans les milieux évangéliques traditionnels, quand même un peu vite fait. Il n'y a pas forcément de grandes célébrations autour, à part dans certains milieux évangéliques, notamment du côté pentecôtiste, où parfois ils mettent des grands événements sur ces week-ends-là, des grandes conventions. Nous, dans notre tradition évangélique, c'est vrai que c'est important, mais dix fois, c'est l'occasion peut-être de partir en famille. Bon, cette année, nos épouses et nos sœurs en Christ ont, elles, pris ce temps pour aller dans une retraite spirituelle. Mais n'oublions pas que la Pentecôte, sans cette Pentecôte, le plan salvateur de Dieu aurait eu un manque. Puisque c'est cet avènement de l'Esprit de Dieu, c'est cette présence permanente de l'Esprit de Dieu qui nous donne d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Car sans lui, il n'y a pas de conversion. Sans lui, certes, l'acte salvateur de Christ a été posé, mais c'est l'Esprit qui imprime en nous le salut que nous acceptons par la foi. C'est lui qui active en nous le fait de dire oui. Et c'est lui qui finalement, comme on le dit, qui nous permet cette régénération, n'est-ce pas? On dit qu'il est le sceau, il est cette marque que Dieu met en nous pour dire, désormais tu es enfant de Dieu. Car c'est par l'Esprit que nous disons Abba, Père. Et Jésus l'a dit dans ce qu'on appelle le discours testamentaire dans l'évangile de Jean, il a dit ça massivement qu'il faut que je parte pour que le paraclet vient. À la fin de l'évangile de Luc, il le dit aussi, et puis au début du livre des Actes des Apôtres, on a cette attente. Il dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis se manifeste. Et alors, vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et aux extrémités de la terre. Et ce jour, si vous lisez le récit dans Actes chapitre 2, c'est un jour formidable. C'est un jour où Dieu sait faire les choses. Dieu, il sait s'inviter au milieu des hommes, n'est-ce pas? Il a manifesté en Jésus-Christ. L'un des prénoms de Jésus, c'est Emmanuel. Dieu parmi nous. Dieu aime s'inviter au milieu de son peuple. Et à la Pentecôte, il fait pareil. Alors que sur la base de cette fête, qui était une fête juive, une fête de reconnaissance pour les fruits de la terre, alors que les Juifs de toute la diaspora sont venus de partout le monde et qui sont rassemblés à Jérusalem, Dieu a saisi cette occasion pour se manifester. Nous avons, dans le texte de Actes chapitre 2, toutes les peuplades qui étaient là ce jour-là. Il y en a au moins 16 de tous les continents qui sont là ce jour-là, dans la ville de Jérusalem. Et Dieu fait une chose extraordinaire, il fait retentir un grand bruit dans la ville, comme un boum. Et tout le monde est alerté, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a cette foule qui accourt, on dit c'est où? Et puis tout le monde indique l'endroit, et puis Dieu... En tout cas, je me fais un peu le film, hein, mais je pense que c'est comme ça s'est passé. Bon. Et tout le monde accourt vers ce lieu. Et là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va permettre aux apôtres de parler de sa gloire et de sa louange dans des langues que toutes les peuplades qui sont là vont entendre distinctement. Incroyable. C'est comme si ce matin, alors que je vous parle en français, chacun de vous entend mon propos en créole, créole haïtien, créole antillais, en anglais, anglais des États-Unis, anglais de l'Angleterre, l'entend en Yakuba de chez moi en Côte d'Ivoire, l'entend en Swahili, l'entend en Kikongo, l'entend dans la langue dans laquelle il a grandi finalement, et il entend parler des merveilles de Dieu. Et les gens sont étonnés, ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Ces gens qui nous parlent, c'est des Galiléens. Mais comment se fait-il que nous les entendons distinctement parler des merveilles de Dieu? Et là, Dieu va pousser Pierre et Pierre va rentrer en action. Et l'apôtre Pierre va faire cette grande prédication. Alléluia. Et voici le résumé de cette prédication. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cet encouragement ce matin, la Pentecôte et amour agapé. Vous comprendrez le lien que je fais avec les deux tout à l'heure. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. La Pentecôte, à mon sens, a imprimé dans les chrétiens l'amour agapé. Dieu est amour. Nous allons lire Actes chapitre 2, vas-y, à partir du verset 36, car c'est le résumé de cette grande journée dans la prédication de l'apôtre Pierre. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Alléluia. Je vous encourage à relire les textes pour vous-même. Après cet événement, voilà qu'on arrive à Actes chapitre 3, que je lirai pas. En relisant ces textes, j'ai été émerveillé parce que la Pentecôte s'est faite, il y a eu ce grand événement, mais les apôtres ne se prennent pas la tête. se disent pas, on est des tout-puissants aujourd'hui, on a Rushmore, on a 3000 âmes et tout ça. Non. Ils ont une mission, ils l'ont compris, c'est de continuer à manifester l'amour de Dieu, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les voilà qui sont en train de retourner dans ce lieu de prière. Et il semble que chaque jour, comme on le fait dans certains endroits religieux, on vient déposer au pied de ce lieu de prière les indigents, hein, ceux qui sont les mendiants. Et il y a un certain mendiant qu'on avait l'habitude de déposer là tous les jours. Et à peine on a fini de le déposer là, que Pierre et Jean sont de passage. Et ce monsieur demande l'aumône. Et Pierre et Jean sont touchés. Et Pierre dit, regarde-nous. Et le monsieur de le regarder, l'infime le regarda attentivement. Et le texte dit qu'il pensait que Pierre et Jean lui donneraient quelques pièces. Et Pierre de dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'est pas juste un miracle. C'est la restauration de quelqu'un. Dieu restaure un infime. Il le rend digne à nouveau d'être totalement dans ses dignités d'être humain. Ce qui est remarquable, c'est qu'on dit, quand vous lisez le texte, on dit cette personne n'a plus jamais, en tout cas pour la journée, il n'a pas voulu quitter Pierre et Jean. Il était collé à Pierre et Jean toute la journée. Et tous ceux qui le voyaient disaient, mais on le connaît ce gars. C'est pas possible. Il est assis là-bas en train de mendier. Comment se fait-il? Ils étaient en même temps émerveillés, mais ils étaient dans la crainte. La crainte, ça veut dire qu'ils étaient un peu sonnés de ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bien-aimé, Dieu fait de grandes choses. Moi, il me semble que l'une des plus grandes choses que Dieu fait, c'est pas les miracles. Parce que les miracles, en fait, c'est pour nous que c'est des miracles. Pour Dieu, c'est rien du tout. Il est Dieu. Par contre, l'une des plus grandes choses, c'est quand Dieu imprime son amour sur le cœur des êtres humains. Pierre et Jean n'étaient pas en recherche d'une puissance. Ils ont manifesté l'amour de Dieu pour cet indigent. On veut bien te donner l'or et l'argent, mais on n'a pas. Et même si on t'en donnait aujourd'hui, ça te suffirait pas, parce que demain tu serais là encore. Mais l'amour de Dieu nous pousse à poser un acte. Et ils ont fait cet acte. L'Église, à cette époque-là, vas-y s'il te plaît. L'Église, à cette époque-là, a manifesté des choses extraordinaires. Quand on lit les éléments qu'on trouve dans les premiers chapitres du livre des Actes, on a à cette période des commentaires tellement éloquents. On dit, à cause de ce que les gens voyaient se manifester dans cette communauté, Dieu ajoutait chaque jour à cette communauté les gens qu'il tournait à lui. Je suis pas sûr qu'il ne proclamait pas la parole de Dieu, mais je suis plus que sûr qu'il vivait quelque chose d'intense de l'amour de Dieu qui parlait aux gens. Les éléments de cette première église, vas-y encore. J'aimerais attarder notre attention sur quelque chose de particulier. Il semble que dans cette stratégie de Dieu, au cours de ces 300 ans, ces trois premiers siècles de l'histoire de l'Église, les foyers chrétiens ont été stratégiquement, pour faire un pléonasme, la stratégie logique pour la stabilité et la multiplication des Églises. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de bâtiment à ce moment-là qui s'appelle Église. Souvenez-vous qu'avant l'an 70, le seul bâtiment religieux qui existe à Jérusalem, bah, c'est le temple. Il va être détruit en 70. Donc les chrétiens n'ont pas un lieu physique où ils se rassemblent tous. Souvenez-vous qu'il y a eu 3000 conversions. Ils n'ont pas un endroit pour rassembler 3000 personnes. Ils se réunissaient dans les maisons, dans les foyers, incroyables, dans toute la ville de Jérusalem. Et c'est là que Acte 2, 42 nous dit, ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. C'est au sein de ces foyers que cela se passait. C'est au sein de ces petites entités, plus ou moins grandes en fonction des maisons qui les accueillaient, que les choses se passaient. Les foyers chrétiens, transformés par l'amour de Dieu, ont été entre les mains de Dieu un élément stratégique pour manifester, pour diffuser, pour répandre son amour. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'amour de Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu pour faire quoi? Il dit, je ne suis pas venu pour juger, pour condamner. Je suis venu pour sauver. Il n'est pas d'abord le Dieu juge. Il n'est pas d'abord le Dieu qui condamne. Il est Dieu qui manifeste son amour. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les actes, les initiatives de Dieu sont d'abord motivés parce que Dieu est amour. Et nous sommes invités à être à l'image de notre Père. L'adage français, il a d'autres connotations dans d'autres pays. On dit les chiens ne font pas des chats, ni les chats ne font pas des chiens. Ça veut dire que chaque espèce produit l'espèce qui est liée à son ADN. C'est ça que ça veut dire. Je ne suis pas scientifique, mais je crois que c'est à peu près ça. Si on est des êtres humains, ce que Dieu nous donne la force de mettre au monde, c'est des êtres humains. Alors si nous sommes des enfants de Dieu, ça veut dire que nous devons être à l'image de notre Père. Et la question pour nous ce matin, 7 jours après la Pentecôte, c'est où en sommes-nous avec la manifestation de la vérité, de la ressemblance à notre Père céleste? Vas-y Aurélien, s'il te plaît. Quelle articulation cela prend? Cela prend, il me semble, d'après les épîtres pastorales, cela prend quelques articulations dans nos foyers. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre renchira aussi sur cette idée. Les maris et les pères de famille doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. En honorant leur femme, en les chérissant, afin qu'elles puissent s'épanouir à l'image de Christ. Quand on cite ce texte, des fois on met l'accent sur « femmes, soyez soumis à vos maris ». Vous savez, quand on fait de la théologie biblique, surtout dans le Nouveau Testament, les accents les plus marqueurs quand on lit un texte, c'est où est la centralité par rapport à Christ? Où est-ce que Christ est plus évoqué? Et sur ce texte-là, là où Christ est évoqué, c'est sur le mari. Il est dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour l'Église. Or, la Bible dit que Christ nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. C'est-à-dire, on n'était même pas beau, on n'était même pas, bref. Et Christ nous a aimés. Et il dit au mari, c'est de cet amour-là qu'il s'agit quand tu prends une femme. Là-bas, elle est plus que haute. Il y a un vieux pasteur qui disait à un jeune qui cherchait à se marier dans le coup de mariage, il dit, frère, la mort c'est bien, mais c'est une responsabilité avant d'être un sentiment. Le sentiment te fait rentrer dans cette belle aventure, mais derrière, l'amour de Dieu c'est une responsabilité. Dieu va te confier une de ses créatures, Dieu va te confier une de ses filles, tu dois en prendre soin pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu a donné l'Église à Christ. Et Christ va présenter l'Église devant Dieu sans ride, sans tache. C'est son travail, c'est pour ça qu'il est l'intercesseur. C'est pour ça qu'il continue de travailler avec l'Église. Marie, aimez vos femmes. Vous savez, on peut faire tous les bouts de discours, et moi le premier. Mais mes frères, vous qui êtes mariés comme moi, si vous n'avez aucune autre mission dans le monde, au moins celle que nous pouvons faire, c'est d'obéir à ce texte. Aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça coûte quelque chose. Ça coûte beaucoup. Les plus anciens nous le diront. Parce que c'est pas toujours simple. Mais est-ce que ça a été simple pour Christ? Non. Ça l'a conduit à la mort de la croix. Ça l'a conduit à la mort la plus ignominie, la plus maudite dans la culture juive. Mourir comme ça, c'est mourir comme un parjure, comme un bâtard, c'est mourir comme le pire des incroyants. Et il a accepté. Il y a du travail, les maris chrétiens. Il y a du travail, les maris chrétiens. Il y a du travail. Mais nous n'allons pas arriver de nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Car la chair n'accomplit pas les œuvres de l'Esprit. Il dit, si vous avez été touché par l'Esprit de Dieu, marchez aussi selon l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, de les éduquer dans la voie du Seigneur, de les aimer comme le Seigneur nous a aimés. L'éducation, il y a d'abord la formation et ensuite il y a la correction. Éduquer, ça part, c'est pas d'abord corriger, c'est d'abord former, c'est d'abord aimer. Et ensuite, quand c'est nécessaire, corriger. Corriger, ça veut dire, ce truc-là, il est tordu, le corriger, c'est le redresser. Donc, c'est le faire du bien pour que ça reste dans la direction qui fait du bien à la personne. C'est ça, corriger. Et l'apôtre Jacques dit, la correction sur le moment, ça fait mal. C'est vrai, hein? La correction sur le moment, ça fait mal. Souvenez-vous de toutes les fois où vos parents vous ont corrigé. Les plus anciens, on s'en souvient un peu, hein? Mais aujourd'hui, on est des hommes. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, je me souviens d'une correction particulière. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais ça m'a marqué, cette correction-là. Je suis de la génération où les parents étaient gentils, mais pas que. À chaque bêtise, le degré de correction était adapté. Et puis, il y a une fois où je pensais que mon père allait me corriger. Franchement, il allait me corriger. Il ne m'a pas corrigé. Et ça, ça m'a fait plus mal, en fait. Parce que j'aurais souhaité qu'il me corrige comme d'habitude et que ça passe. Mais là, ce n'est pas passé. En fait, il a laissé une leçon de silence en moi qui m'a plus travaillé que s'il avait fait cette correction habituelle. Et je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Oh! Marie, parents, nous qui sommes des pères, nous devons éduquer nos enfants dans la formation, dans l'affection, dans l'amour et aussi dans la correction. Notre monde aujourd'hui dit qu'on ne corrige pas les enfants. Je ne parle pas de correction. Vous me comprenez bien. Mais il semble qu'on a fait des enfants rois et qu'on a du mal à les accepter aujourd'hui puisque c'est nous qui les avons créés enfants rois. Maintenant qu'ils sont rois, on leur dit de descendre de leur trône. C'est pas possible. On les a déjà intronisés. Que Dieu nous aide à être équilibrés sur l'éducation, comme le Seigneur nous l'indique. Femmes, mariées et mères de famille, elles doivent aimer et être des partenaires pour leur mari, être dévouées à leurs enfants, en les aimant, en prenant soin d'eux, en s'efforçant de faire de leur foyer sous la conduite avec leur mari un témoignage efficace de la beauté de la parole de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est Luther qui disait qu'on se retire dans les monastères. Il semble que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Il dit que le chrétien doit être présent dans la vie de chaque jour avec les non-chrétiens pour qu'ils voient au travers du chrétien l'amour de Dieu. Et nous avons une mission en tant que famille chrétienne, nos sœurs, comme nous, je viens d'en parler, vous les femmes chrétiennes, vous avez une mission. Dans un monde où les choses sont de plus en plus braquées, où il y a des tensions, où il y a des oppositions entre hommes et femmes, où on dit tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on ne veut pas, et chacun pense qu'il a raison et que tout le monde a tort, revenons à la parole de Dieu, dans ce qu'elle nous dit. Elle dit que les femmes, et j'en donnerai quelques éléments tout à l'heure, sont des êtres dignes. Et que cette dignité-là, Dieu ne veut pas qu'on vous l'enlève. Or, la société veut la gommer. puisqu'il n'y a ni homme ni femme, puisque tout le monde est pareil. Et qu'un homme, c'est une femme, et qu'une femme, c'est un homme. Où est cette nuance que Dieu a mis en la femme qui doit faire la différence et la qualité de la création? Si on nivelle tout, si on gomme tout, si tout est pareil. Or, il nous semble que justement, les femmes touchées par Dieu doivent faire cette différence. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas la parure extérieure qui fait votre beauté. Elle est utile. Et ce matin, vous êtes belle. Mais il dit, c'est la parure intérieure, la qualité des femmes touchées par Dieu avec des vertus. Notre société, elle parle comme elle parle, mais elle sait quand même que l'un des acteurs clés des grands bouleversements ou des grands changements de notre société, ce sont les femmes. Ça a commencé un peu à changer, mais regardez, je vous fais quelques exemples. Dans le corps médical, quels sont les titres qui sont attachés à certaines catégories médicales? Sage-femme, infirmière, femme de soins. Bon, les hommes qui y sont rentrés, on essaie de trouver des noms pour réqualifier la profession. Mais parce qu'on a considéré que les femmes avaient une certaine sensibilité. Et que quand elles étaient compétentes, cette sensibilité était aussi utile. N'est-ce pas? Maternelle. Il y a maintenant plusieurs hommes qui sont maintenant des maîtres de maternelle. Mais dans un passé très récent, il n'y avait que des maîtresses en maternelle. Parce qu'on a considéré que cette filiation, cette affinité, ce soin, la femme l'a naturellement. Et que c'est utile pour construire l'enfant. C'est vrai que nous les pères, on apprend à être affectifs depuis quelques décennies. Parce que ceux qui nous ont formés aussi n'étaient pas du type affectif. Ils nous aimaient, mais pas de cette affection très manifestée. Certes, ils avaient leur façon de manifester leur amour, et nous sommes reconnaissants pour cette manifestation. Mais celles auprès desquelles on avait cette tendresse, c'était nos mères. Et donc la mère a un rôle à jouer. La femme a un rôle à jouer. Et les enfants chrétiens doivent aussi être des enfants qui se laissent conduire par la pensée de Dieu, qui sont obéissants à leurs parents, qui tout en grandissant persévèrent dans la foi que leurs parents leur ont enseignée pour que instruit l'enfant dès sa jeunesse. Quand il sera grand, n'est-ce pas Rachel? Quand il sera grand, il s'en souviendra. Parce que les graines que nous semons dans le cœur de nos enfants, c'est Dieu qui veille pour les faire germer, n'est-ce pas? Il semble que les femmes, par la manière dont elles ont vécu dans leur famille, ont été des facteurs clés du progrès de l'évangile pendant les trois premiers siècles de l'Église. Et il y a quelqu'un comme Jeff Reed, c'est un homme d'Église aux États-Unis, dans l'État d'Ames, Iowa, qui a documenté ça, donc qui a travaillé sur cette question pour démontrer comment, sur cette période-là, les femmes ont été des acteurs clés. Et je vais vous donner quelques exemples de ces femmes. Vas-y. Encore, s'il te plaît. Et vous connaîtrez quelques noms que je citerai, ces femmes prépondérantes dans cette période de l'histoire. Si je vous disais Lydie, ça vous dit quelque chose? Une femme influente de la ville de Philippe. Sa maisonnée était un lieu d'accueil de l'église. Elle a demandé expressément à Paul s'il voulait demeurer chez elle, quand Paul est passé par là, n'est-ce pas? Et on a un témoignage de cette femme incroyable. Dans la ville de Béré, en Actes chapitre 17, nous voyons encore des femmes distinguées vivant à Christ. Beaucoup de ces femmes distinguées ont ensuite hébergé des églises chez elles, comme Nympha de l'église, qui avait l'église dans sa maison, selon Colossiens 4, verset 15, comme Phoebé, qui devient aussi une bienfaitrice de Paul et émissaire clé pour lui à l'église de Rome, comme Priscille et Aquila, ce couple. Mais, les théologiens disent, elle était citée avant son mari, donc ça veut dire quelque chose. Elle était aussi comme les autres, elle a créé une église dans sa maison. Elle a eu un impact sur la vie de quelqu'un qui va devenir un prédicateur comme Apollos. Évodie, Saint-Tiche, des collaboratrices étroites de l'apôtre Paul. Ces femmes ont eu une place prépondérante dans l'Église. Quand on lit les finales de certaines épîtres, Colossiens, Romains, Paul cite des femmes nommément. Il dit, elles ont été des collaboratrices. C'est des servantes de Dieu. Bien-aimés, mes sœurs, on dit que vous êtes des femmes dignes, des femmes à respecter. On dit que stratégiquement, Dieu sait que vous avez un rôle prépondérant à jouer. En tout cas, dans cette configuration-là, bonne fête à toutes les mères. Bonne fête à toutes les mères. Toutes les femmes sont potentiellement des mères. Et c'est une grâce que vous avez. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas que Dieu a investi en vous quelque chose qui est incroyable. Et il aimerait que ce quelque chose continue de changer notre société. Il aimerait que ce quelque chose continue de marquer les couples chrétiens. Il aimerait que ce quelque chose continue de marquer vos relations avec vos enfants, petits comme grands. Ça s'appelle l'amour. Dieu est amour. Il vous a investi de cet amour, de cette puissance. Vas-y, s'il te plaît. Sur la diapo qui va venir, ce qui m'intéresserait de dire, ouais, tu peux encore avancer. C'est le dernier paragraphe, parce que ce que j'ai dit en amont est déjà suffisamment argumenté par mes propos précédents. Il y a cette remarque d'un auteur qui dit « Il faut garder à l'esprit que Satan veut bouleverser des familles entières dans le cadre de sa stratégie visant à contrecarrer le progrès spontané de l'Évangile. Il semble que les femmes constituent une cible de choix. » C'est-à-dire parce qu'il sait que le foyer, c'est une puissance entre les mains de Dieu. Et que dans le foyer, en tout cas dans la pensée chrétienne, le foyer a deux piliers, l'homme et la femme. Mais il sait que l'un des piliers qui est moteur, et les statistiques nous le montrent, en tout cas en Île-de-France, on dit que dans nos petites églises évangéliques, il y a 20% des chrétiens qui sont actifs pour 80%, et dans les 20%, il y a 80% de femmes qui sont actives. Donc, s'il titille les 80% de femmes, qui les embête tout le temps. Ça veut dire que le travail va être tellement retardé. Le travail va être embrouillé, puisque 80% des forces vives de l'action de Dieu sont attaquées par l'ennemi. Comme il le sait, je vous invite à être vigilantes, les sœurs. Je vous invite à être vigilantes. Je suis pas sûr que l'adage qui dit la femme est un être faible, je ne pense pas que théologiquement ce soit vrai. Je pense simplement que à cause peut-être de votre sensibilité, il y a des choses qui font que malheureusement dans ces épreuves-là, voilà, il y a parfois une perte de vitesse. Parce que vous êtes sensible. Et c'est une bonne chose, c'est Dieu qui vous a donné cette sensibilité. C'est un privilège d'être sensible. Vous savez, les gens non sensibles, on appelle les gens sans cœur. Ça leur dit rien. Ils disent, ça coule sur moi comme de l'eau. On dit, mais c'est pas bien frais. Toi, tout coule sur toi, mais ça, c'est un caillou sur lequel tout coule. Mais tu n'es pas un caillou. Si tu es un caillou, alors tu ressembles à ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit. Ton cœur est un cœur de pierre. Or, Dieu dit, je vais changer les cœurs de pierre en cœur de chair. Que Dieu nous aide. Alors, nous avons besoin, vas-y, nous avons besoin, nous qui sommes des hommes, de prendre soin. Les maris et les hommes, dans cette configuration-là, doivent être attentifs à leurs épouses. J'aurais pu même arrêter la prédication ici. Et je vous parle pendant que je suis concerné par ces choses-là. Parce que je suis aussi un époux. Je suis aussi un père. Notre monde, dans les dernières semaines qui sont là, il y a trop d'atrocités qui sont faites aux femmes. Trop. Il n'y a pas de semaine qui passe sans qu'une femme ne se fasse tuer par un ancien amant ou par un ancien mari. C'est trop. Nous, on peut dire, ouais, c'est des non-chrétiens, ils font des choses cruelles. Mes frères, rappelons-nous que Jésus dit, si tu dis imbécile à ton frère, tu es pareil comme celui qui a fait quoi? Comme celui qui l'a tué. Il dit, tu peux dire, je n'ai pas fait de violence physique. Il dit, tu peux dire, moi, je ne suis pas comme les autres. Vous savez, c'est facile de dire, je ne suis pas comme. Il faut te poser. Regarde comment tu entretiens ta relation en tant que mari vis-à-vis de ta femme. Est-ce que ta femme est épanouie? Est-ce que ta femme est épanouie? Oui, elle a ses défauts, mais tu en as aussi. J'ai que 50 ans, mais je ne connais pas un homme qui n'a pas de défauts. Si vous en connaissez, je suis preneur pour aller témoigner de cette personne-là. On a tous des défauts. Oui, mais j'en ai moins. Qu'est-ce que t'en sais? Parce que c'est toi qui parles de toi. On parle jamais de soi négativement, ça arrive rarement. On est tous convaincus qu'on est un peu mieux que l'autre. Que Dieu nous aide dans l'humilité, dans l'acceptation de nos qualités, mais aussi de nos faiblesses. Et que nous puissions, pour nous qui sommes famille chrétienne, relever ce défi de l'amour de Dieu au cœur de nos familles par l'action de l'Esprit de Dieu. Car de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Mais si nous laissons Dieu nous aider, oui, nous y arriverons. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Ne dis pas, je suis assez intelligent. Dis, Seigneur, comme David, sonde-moi. Regarde mon cœur. Et là où je crois que je suis bien, où je suis bien, si c'est mal, montre-moi pour que je change, car je veux changer. Je vais lire quelques textes et je vais m'arrêter, je pense, c'est mieux. On va lire quelques textes de l'épître de Jean, la première épître de Jean, des textes assez forts. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Il dit, nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée pour nous. Verset 5, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. 1, chapitre 2, verset 3. À ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. 1 Jean, chapitre 3, verset 16 à 18. À ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans les besoins et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimez pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 5, verset 3 à 4. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Et le texte qui me semble le plus beau pour cette formulation de ce thème d'aujourd'hui, la Pentecôte imprime en nous l'amour de Dieu, c'est 1 Jean 4. partie du verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Verset 11. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et je saute jusqu'au verset 19. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de démontrer que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Nous avons besoin de manifester l'amour de Dieu. Que cet amour de Dieu, qui est un amour qui regarde l'objet de cet amour comme le plus précieux. Jésus nous a montré le chemin. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait pour nous aimer. Il nous a aimés alors qu'on était imparfait. C'est ça l'objectif. C'est ça l'amour agapé. L'amour agapé, c'est de demander la force à Dieu, d'aimer les gens. Que Dieu nous aide, que dans nos foyers chrétiens, ah Jésus, nous avons un défi dans ce monde actuel de vivre l'amour de Dieu pour que les gens voient.